Bonjour à tous et bienvenue dans cette chronique boursière. Nous sommes le 12 juillet 2021. Lorsque vous regardez le Tour de France et que vous voyez le maillot jaune se balader dans tous les cols et donner l'impression qu'il roule en mobylette pendant que les autres pédalent pour de vrai, vous vous dites que c'est spectaculaire, que le mec il est vraiment balèze. Mais en même temps, il y a une petite voix dans votre tête qui vous dit qu'il y a quand même un truc qui ne joue pas et que si dans un mois, on vous apprenait qu'il était chargé avec plein de produits illégaux qui feraient passer les stéroïdes anabolisants pour des caramels mous, vous ne seriez pas vraiment surpris. Et bien la bourse, c'est exactement pareil. Lors de la semaine qui vient de s'écouler, nous avons eu à peu près tout ce qu'il fallait pour que finalement on se pète la gueule. Et pendant au moins 36 heures, on a même commencé à croire que c'était possible. C'était possible déjà parce que tous les gourous négatifs de la planète étaient ressortis pour nous prévenir que la fin du monde était proche. Mais au-delà de ces prédictions qui se rapprochent plus du tâtonnement et de l'événement marketing qu'autre chose, nous avons également eu droit à toute une liste de choses qui auraient pu transformer le bull le plus convaincu en plantigrade invétéré. En vrac, nous avons tout de même eu des chiffres économiques qui laissaient supposer que la croissance sur laquelle nous surfons depuis des mois semblait avoir atteint ses limites. Les chiffres de l'ISM de la semaine dernière les laissaient en tout cas supposer fortement. On avait bien évidemment des craintes inflationnistes qui restaient très présentes. Un sell-off sur le pétrole parce que l'OPEP avait décidé de ne rien décider et qu'il était urgent d'attendre mais qu'ils se détestaient tous cordialement, sans oublier le retour du Covid et de son variant Delta qui a forcé le Japon à déclarer à nouveau l'état d'urgence à Tokyo, ce qui sera idéal pour l'organisation des Jeux Olympiques les plus chiants de l'histoire en l'absence totale de public. N'oublions pas non plus le short covering massif sur le 10 ans américain qui a fait peur à tout le monde et qui a laissé supposer que tout à coup quelque chose avait changé dans le mindset des intervenants. En général, on aime plutôt bien quand le rendement du 10 ans se pète la figure. Mais la semaine dernière, on n'a pas trop aimé. Enfin, on n'a pas trop aimé le premier jour. Après, on s'est habitué et on s'est dit que si c'est pour toucher des rendements aussi pourris pour prêter au gouvernement américain, il y avait quand même mieux à faire en achetant des actions, surtout celles qui paient des dividendes bien gras et bien épais. Nous avons donc terminé au plus haut de tous les temps une semaine qui semblait bien mal engagée, pas plus tard que jeudi soir. Encore une fois, ce marché fait preuve d'une résilience et d'une force peu commune, à moins que ce soit de l'aveuglement qui nous empêche de voir clairement ce qui se passe. Entre vous et moi, on n'en sait rien, mais il n'y a que le résultat qui compte, et le résultat de cette semaine est encore une fois que rien ne semble pouvoir nous faire baisser. Il faut peut-être tout simplement l'admettre et comprendre que tant que nous aurons cette capacité à voir les bonnes choses et à ne pas s'entêter à la baisse plus de 24 heures de suite, les bourses mondiales sont peut-être vouées à ne plus jamais baisser. Ce qui reste phénoménal, c'est quand même que nous soyons capables de réutiliser la mauvaise nouvelle de la veille pour la transformer en bonne nouvelle. Tout simplement parce qu'on a décidé de l'interpréter différemment. Ou alors de la voir sous un autre angle. Prenons simplement le rendement du 10 ans qui a déclenché le sell-off de jeudi. Si vous faites abstraction du fait que le rendement a baissé parce que tous ceux qui jouaient la thématique de l'inflation ont dû se couvrir en voyant les chiffres de l'ISM qui pointaient sur le fait que le top de la croissance avait été atteint, eh bien vous vous retrouvez avec un rendement tout pourri sur l'obligataire américain qui vous pousse inexorablement vers les actions et surtout celles qui paient des rendements corrects. Prenons un exemple. Vous devez investir 100 000 dollars pour 2 ans. Vous avez le choix entre acheter du 10 ans US qui va vous rapporter 1,35 de rendement et où vous aurez la quasi-certitude de retrouver votre argent dans 24 mois, à moins que les USA fassent défaut entre deux. Ce qui est hautement improbable puisqu'ils ont la capacité de s'endetter indéfiniment sans que qui que ce soit s'en inquiète. Ou alors, vous pouvez acheter une pétrolière américaine qui vous paiera un dividende entre 5 et 6% et qui, selon le monde merveilleux des analyses financières, a un objectif 30% plus haut sur les 12 prochains mois. Tout cela sans compter que tout le monde s'accorde à dire que le secteur pétrolier va cartonner dans les 12 prochains mois, vous faites quoi? Le risque reward en vaut-il la peine? Franchement, si tout le monde réfléchit comme ça, je ne vois pas ce qui pourrait faire baisser ce marché. Mis à part une guerre avec les Chinois ou une 8e vague de Covid, et encore, c'est même pas sûr. La semaine commence donc en pleine euphorie en Asie, puisque tout le monde respire avec le masque, et pas trop fort, mais tout le monde respire, après le rebond de Wall Street surtout. Le Japon, qui est quand même dans un état d'urgence sanitaire, est en hausse de 2,3%, et tout le reste suit le mouvement. On est presque aussi motivé que le jour où Pfizer a annoncé l'arrivée du vaccin. En plus, la semaine promet d'être hyper intéressante et trop sexy avec le début de la publication des chiffres trimestriels. Dès demain, les bancaires vont s'y coller, accompagnés par Pepsi-Cola. Et lorsqu'on écoute les experts en finance, on nous dit déjà que même si les profits des sociétés n'ont jamais été aussi hauts et forts, on suppose que les estimations et autres attentes des analystes sont beaucoup trop bas. On a vraiment l'impression que ça va être le feu d'artifice et si le S&P 500 est à 5000 début septembre, ça ne surprendra personne. Nous sommes dans un monde entouré de boules et oser dire que l'on va baisser est devenu presque aussi impopulaire que refuser de se faire vacciner. Pour le reste, on notera que le pétrole repart à l'assaut de ses récents plus hauts. Ce matin, le baril s'échange à 74,50 pendant que l'or ne fait strictement rien et frise l'emmerdement maximum. Côté crypto, c'est la fête au village alors que la fin de semaine était toute pourrie et que l'on se demandait si le Bitcoin allait casser les 30 000 à la baisse. Le voici de l'autre côté du canal qui semble prêt à casser les 35 000 à la hausse. On se demande pourquoi ce revirement de tendance soudain alors que Musk n'a pas dit un mot sur Twitter. Le Bitcoin aurait-il une vie propre en dehors des ordres du maître Elon Musk ? Cela paraît pourtant hautement improbable. Dans les nouvelles du jour, Bruxelles se lance dans une croisade écolo et lance toute une nouvelle série de taxes qui sont supposées aider à réduire les émissions carbone. Je suis certain que taxer les carburants des avions va dissuader les gens de voyager et les compagnies de vendre des billets. Ce sera juste plus cher, sachant que pour aller de Bruxelles à Washington, le vélo électrique, c'est pas une super alternative. Et il y a aussi le Vision Fund de SoftBank qui lance un nouveau compartiment avec 13 milliards pour acheter des plus petites capitalisations. Souvenez-vous, le Vision Fund, c'était le fonds baleine qui a failli faire capoter le marché à la fin de l'été dernier. Comme quoi, on n'apprend pas grand-chose et on oublie tout. Et donc, Richard Branson est allé dans l'espace avant Jeff Bezos. Il se trouve que l'on s'ennuie tellement cet été pourri que la seule chose qui reste pour nous regarder, pour nous garder éveillés, c'est d'observer deux milliardaires qui vont se balader dans l'espace. Autant je suis fan d'aéronautique en tout genre, autant je ne vois pas l'intérêt de ce cinéma. Mais bon, ça doit être moi. En tous les cas, c'est un nouveau business qui s'ouvre et pour 2 ou 300 000 dollars, vous pourrez faire pareil. Attention cependant parce que Justin Bieber a pris son billet, ce qui veut dire que vous risquez de payer 300 000 dollars pour vous retrouver à côté de lui dans l'espace, ce qui serait vraiment pas de bol. Et puis autrement, Elon Musk va au tribunal aujourd'hui. Il est censé défendre l'acquisition de SolarCity par Tesla et expliquer au juge pourquoi il était actionnaire des deux sociétés. Bref, pour faire simple, il va ressortir sans problème d'une histoire qui vous aurait coûté un maximum à vous. Mais comme il y a des gens plus égaux que les autres, tout est normal. Pour conclure, le variant Delta est en train de cartonner en Australie et malgré que tout est confiné, je suis impatient de voir ce que le clown de l'Elysée va nous sortir ce soir. Pour les chiffres du jour, il n'y aura rien. Par contre, ça va s'intensifier au cours de la semaine. Il y aura un paquet de chiffres en Chine, les trimestriels qui commencent demain, les deux témoignages de Powell cette semaine. On aura de quoi faire. Alors autant profiter du calme ambiant avant la tempête du reste de la semaine. Autrement, je vous rappelle une dernière fois qu'à midi aujourd'hui, je fermerai les préventes de mon premier roman. On a passé les 3000 bouquins vendus et la suite se fera dans le commerce dès le 1er septembre. Je ne trouve pas les mots pour vous remercier. Passez une très belle journée, bon lundi et bon début de semaine et on se retrouve comme d'habitude demain.